Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Ducatillon d'Adapta, une plateforme de revente de cuir de haute qualité et de réemploi. Et vous allez voir, c'est un épisode qui est très intéressant parce qu'il aborde des sujets qui sont plus complexes et moins évidents qu'ils n'y paraissent. Car évidemment, vous le savez, Décousu aime à questionner chacun des secteurs de la mode, voir les enjeux auxquels ce secteur doit faire face, et également penser les réalités concrètes d'un monde qui change, à savoir avec une révolution énergétique, une crise écologique et une prise de conscience au niveau éthique mondial. Évidemment, la question du cuir, elle est essentielle, puisque d'un point de vue éthique, il paraît plus que logique de ne pas travailler avec des peaux d'animaux. Mais en réalité, comme souvent, le réel est plus complexe qu'il n'y paraît, puisque le cuir est en fait une industrie qui est elle-même issue de déchets d'une autre industrie. Et évidemment, c'est une matière qui travaille avec la peau de l'animal, mais pour autant, c'est une matière qui est biodégradable, puisque totalement naturelle, en comparaison avec une matière synthétique. Et même si en fonction des tanneries, des colorants, si on colore une peau, et des déchets qui peuvent être rejetés dans l'eau, il y a effectivement une pollution dans le cuir, ça n'a rien à voir comparé à des matières synthétiques. Il faut avoir aussi ça en tête. Et bien évidemment, au-delà de ça, la question de la durabilité de la matière, de la qualité de la matière, est centrale lorsqu'on parle de cuir. Donc en réalité, le cuir est une matière qui cristallise tous les enjeux auxquels nous devons faire face. Et que vous soyez pour ou contre, puisque je vous le rappelle que vous êtes tout à fait conviés à partager vos points de vue en commentaire sous les posts Instagram dédiés, puisque nous sommes une communauté décousue qui est là pour échanger. Peu importe vos points de vue, comme je le disais, en tout cas il faut connaître et avoir une conscience de comment fonctionne ce secteur avant de le critiquer. C'est pour ça que le travail chez Adapta est absolument crucial. Je remercie Virginie qui vient nous l'exposer, puisque cet épisode permet à la fois de retracer donc la question de l'industrie du cuir, mais également l'industrie de la matière de réemploi. Et vous allez le voir, c'est absolument passionnant. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à donner une note et un commentaire au podcast sur votre application. C'est la meilleure façon d'aider le podcast à se développer. Moi, j'arrête de parler et je vous laisse à présent en compagnie de Virginie. Bon épisode à toutes et à tous. Alors donc aujourd'hui pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Ducatillon pour parler de Adapta, qui est une alternative très intéressante dans justement les choses qui se font un petit peu aujourd'hui par rapport aux révolutions quant à l'industrie du textile, du cuir et la mode. On cherche des alternatives justement. Donc d'abord, bonjour Virginie.
Bonjour Agathe.
Comment tu vas ?
Je vais très bien. On sort d'un salon de première vision. Donc on est reboosté à fond. On a rencontré plein de partenaires, plein de clients potentiels, des clients qu'on connaît, des partenaires. Donc on est bien reboosté là. Donc
2024 commence bien. Écoute, on va commencer directement parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, celui que traite Adapta. Donc avant toute chose, est-ce que tu pourrais présenter un peu l'activité, dire qu'est-ce qu'Adapta, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce que tu l'as créé et tout ça quoi.
Alors Adapta, ça a été créé en 2018, donc ça va faire bientôt 6 ans. On est une solution d'approvisionnement circulaire dans le cuir, dans le sens où on ne va que s'approvisionner dans les stocks dormants de fournisseurs du luxe. Donc en fait, on va aller dans les stocks dormants, en fait, c'est des stocks qui sont inutilisés et dont les matières parfois vont être détruites parce que n'ont pas de besoin identifié. Et donc, nos fournisseurs, ça peut être des maisons de luxe qui ont des stocks dormants. Ça peut être leurs fabricants de produits finis, donc des maroquiniers, des façonniers, etc. Soit aussi des fournisseurs de matières, donc des tanneurs, des mégissiers. Et on va les revendre, du coup les reproposer. On va faire une sélection, une curation vraiment ce qu'on souhaite au maximum, le plus désirable possible. Et on va les reproposer à nos clients. Ça va être de l'étudiant qui va faire sa collection de fin d'année dans une école de mode, à un artisan qui va faire une pièce spéciale, à un jeune créateur qui va faire des petites collections, des petites séries, mais aussi jusqu'à des fabricants qui vont commander pour leur marque cliente ou des marques beaucoup plus établies qui vont avoir des besoins de plusieurs centaines de mètres carrés à la couleur.
D'accord. Donc effectivement, sacré programme et sacré projet surtout. Mais tu vois, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est cette notion justement de récupération de matière. En fait, comment ça se fait ? On va dire que même dans les maisons de couture, etc., parce que ça peut paraître pas forcément instinctif de se dire qu'effectivement, il y a des matières qui sont perdues. Parce qu'on pourrait imaginer que ce qui va être perdu, ça va être des chutes, alors que là, c'est vraiment des peaux entières, parfois même, enfin, souvent plusieurs peaux entières qui sont d'excellente qualité. Comment ça se fait, en fait, qu'elles soient perdues, pas utilisées ? Est-ce que ce sont des maisons qui, finalement, s'en lassent ? Est-ce que ce sont des tanneries où il y a peut-être des défauts ? Enfin, d'où viennent, en fait, tout ce gaspillage potentiel ?
Déjà, de cette identification de cette problématique dans la mode, j'ai pu l'avoir grâce à mes 10 années d'expérience professionnelle dans différentes maisons de luxe. Donc, j'ai travaillé chez Chanel, chez Hermès et chez Céline, à chaque fois en développement produit.
Donc, pas des moindres, ouais.
Voilà, et qui malheureusement, moi, rien qu'au développement produit, en fait, à la fin des collections, des présentations des collections, il y avait en fait carrément des coloris entiers qui étaient finalement annulé. Donc ça va être une première raison de ces stocks dormants, surtout en grande quantité. C'est que bon, dans les marques, en fait, dans la mode, quand on présente en showroom une collection entière, avant même la fin du showroom et donc la validation de toutes les références qui vont partir en production, en fait, en amont, on est obligé, entre guillemets, mais ça c'est le process qui veut ça, on est obligé de lancer déjà les matières en amont de la fin de ce showroom pour pouvoir être dans les temps, pour pouvoir présenter les produits finaux et la collection 3 mois après en boutique. Donc ça déjà, ça veut dire que un coloris qui était censé être présenté sur plusieurs modèles, etc., potentiellement, ils peuvent avoir plusieurs centaines de mètres carrés de production, ouais, en fait, en cours. Donc si jamais ce coloris est annulé à la fin du showroom, et ben finalement, toutes ces matières-là sont annulées. Donc ça peut être une première raison. Malheureusement, mais c'est structurel au process de la mode.
Après,
tel qu'il est actuellement. Ouais. Donc, actuellement, il y a un dysfonctionnement, entre guillemets, qui permet en fait ce gaspillage-là. Après, le but, c'est d'avoir, nous, une solution, et nous, on se positionne comme solution pour justement éviter que ces matières, elles se retrouvent inutilisées et dans le pire des cas, détruites. Mais après, il peut y avoir aussi, par exemple, des lignes de produits qui sont produites, on va dire, de manière régulière chez les fabricants. Si jamais un jour, cette ligne de produits, elle est arrêtée, et bien pareil, il y aura des matières qui auront été lancées de toute façon pour répondre à la production et à la production, on va dire, récurrente de ces lignes de produits. Mmh. Et donc pareil, il y aura aussi des gros volumes qui vont être en stock. Et après, il peut y avoir des plus petites quantités, des fins de production justement, des erreurs d'achat. Mmh. Des achats justement sont des matières qui finalement ont très peu de gâches par rapport à ce qui avait été prévu, parce qu'elles sont de meilleure qualité qui était prévu dans les choix. Ça peut être des projets qui sont ultra urgents et qu'il faut lancer pour avant-hier et finalement qui sont annulés. Enfin voilà, il y a quand même énormément de raisons pour lesquelles on arrive à ces stocks dormants et à ces gros volumes.
Oui, parce que là c'est vrai que malheureusement, c'est une problématique dont la conscience a été éveillée, on va dire, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, sauf que là, vraiment, depuis 5 à 10 ans, justement, avec cette conscience, il y a une loi qui est passée, donc la loi AGEC, et c'est vrai que dans cette loi, bon, alors elle tourne à la notion de gaspillage, mais finalement, c'est assez compliqué de comprendre vraiment comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle interdit, qu'est-ce qu'elle permet. Alors, est-ce que j'imagine que tu connais bien cette loi. Est-ce que tu peux nous expliquer, en tout cas, une petite précision par rapport à comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça a changé aussi par rapport aux maisons et qu'est-ce qu'elles doivent faire et est-ce que ça a permis à Adapta, justement, d'utiliser cette loi pour son ADN, quoi.
Alors c'est une vraie avancée, par contre en fait ça ne change rien pour nous, pour le moment en tout cas, c'est une avancée on va dire dans l'esprit des consommateurs, du grand public, etc., mais en fait ça ne concerne que les produits finis.
D'accord.
Et sur le textile. Donc déjà, pas la maroquinerie et encore moins les matières. Même le tissu, même le textile n'est pas la matière première. Le textile en lui-même n'est pas du tout dans le cadre de cette loi. Donc voilà, donc on n'y est pas encore.
C'est comme les produits Made in France où on a juste besoin de les assembler en France, etc., pour que ce soit Made in France.
Ben là, c'est nous, on pousse typiquement à ce que, effectivement, dans les prochaines lois, on puisse plutôt interdire, enfin plutôt en plus, on puisse interdire la destruction de toutes ces matières. Alors après, il faut toujours accompagner avec les débouchés, hein, parce que nous-mêmes, on n'a pas encore tous les débouchés pour tous ces volumes, et on est plusieurs acteurs là-dessus. Mais,
Ce qui est fou quand même, parce que ça veut dire que le potentiel de gaspillage est juste massif en fait.
Il est très important. Heureusement, toutes les grandes maisons, tous nos fournisseurs font évidemment des efforts et essayent en interne, en externe, d'essayer de trouver des débouchés. Mais pour l'instant, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'ils ont aussi appel. Ils font aussi appel à des structures comme nous.
Mais parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a quelques années, quand finalement la conscience était, on va dire, plus que moindre, qu'est-ce qui se passait en fait ? Qu'est-ce que ça voulait dire gaspillage ? Elle ne faisait pas que dormir dans les stocks. Comment elles étaient traitées ? Qu'est-ce qui se passait de ces matières-là ?
Elles étaient détruites, mais toujours aujourd'hui encore.
Mais de quelle façon détruite ?
C'est enfoui, c'est brûlé, c'est détruit de toutes les manières possibles, imaginables. Mais
enfouir et brûler, ça n'a pas forcément le même résultat, on va dire aussi.
Donc, exactement. Effectivement, c'est mis en valeur. Et ça doit l'être toujours pour des déchets de déchets de déchets, pour la revalorisation énergétique, ce qu'on appelle ça comme ça, quand on le brûle. En tout cas, c'est, on marche sur la tête. Si jamais on brûle, si on continue à brûler encore des matières de cette qualité-là, qui n'ont jamais été utilisées et qui parfois sont des lots entiers, donc qui peuvent être vraiment utilisés par des marques établies pour lesquelles on travaille, nous, et pour lesquelles on essaye justement de proposer un maximum toutes ces très belles matières, parce que les matières auxquelles on a accès, c'est des matières vraiment de top qualité mondiale. Et donc, si on n'arrive même pas à trouver un débouché pour ces matières qui sont, on va dire, le haut de la pyramide, on n'arrive pas à mener à bien notre mission, nous, en tant que Adapta, et pour réemployer les matières. Nous, notre mission, c'est vraiment d'éviter ce gaspillage-là.
Oui, parce que ce qui est fou, c'est que, comme il y a quand même une quantité très conséquente, il y a beaucoup de coloris différents, beaucoup de types de cuir différents, parce qu'évidemment là on parle de cuir. Pourquoi est-ce que par exemple une maison, les jeunes maisons sont un peu dans cet embrayage-là de façon, on va dire, naturelle, mais qu'est-ce qui fait qu'une grande maison ne va pas se dire, j'ai utilisé par exemple pour ma collection suivante. Ça veut dire que les grandes maisons continuent de faire produire des matières plutôt que d'utiliser ce qui existe déjà en fait.
Alors au maximum, elles essayent évidemment de reproduire ce qu'elles ont dans leur stock, mais parfois c'est pas déjà dans des assez grandes quantités. Donc c'est pour ça que nous, on va les reproposer à des marques qui vont avoir besoin de moins de quantité sur des collections saisonnières, parce que la particularité aussi du cuir, du réemploi de ce cuir-là, c'est qu'il n'y a pas de réassort possible. Donc ne sont pas pour des permanents et sur les modèles qui ont le plus de volume, entre guillemets. Ça va être vraiment sur des collections saisonnières, des one-shot, puisqu'on ne va pas pouvoir réassortir et relancer de production. En tout cas, nous, Adapta, on n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est vraiment utiliser l'existant. Et même, en fait, nos fournisseurs, le but, c'est que ce soit fournisseur ou même client, que tous ceux qui ont des stocks, le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de mes stocks ? Est-ce que je ne peux pas moi-même les réutiliser ? Si jamais je ne peux pas moi-même les réutiliser, du coup, passer par des acteurs comme nous. Mais le premier réflexe, c'est évidemment de se dire ça. Et tous, maintenant, se posent cette question-là, heureusement. Mmh. Après, est-ce que la réponse va dans le positif et est-ce qu'ils arrivent à utiliser ? Non.
Après, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que comme le process a été pensé depuis les années 80-90, c'est devenu une industrie pure. Et donc nécessairement, le côté calendrier, cycle, etc., il faut qu'on ait des gros volumes et que ce soit fait avec une certaine qualité et un certain volume de matière qui fait que forcément ça devient compliqué de penser à un rythme plus lent. Donc c'est, comment dire, c'est encore une fois une question aussi de courage dans la notion de repenser les process, parce que quand on est dans des marques qui appartiennent à des portefeuilles de marques aussi énormes, c'est évidemment non seulement compliqué, mais voire presque impossible de refonder un process total. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, bah, notamment de se tourner vers des jeunes maisons comme Jeanne Friot, Maître Pierre, Benjamin Benmoyal, qui eux sont pleinement là-dedans, et en plus qui réintègrent du coup le côté exclusivité et rareté. Mais justement, en parlant d'exclusivité, moi, ce qui me titille un petit peu et ce qui est vraiment un peu troublant, c'est que les maisons de luxe sont extrêmement fermées quand il en vient à parler de leur matière. Et je me dis, mais elles acceptent ? Enfin, comment est-ce que tu as commencé à faire pour te dire, bah tiens, comment tu as commencé à vouloir te dire, je vais trouver des fournisseurs ou je vais travailler avec telle ou telle maison ? Elles ont accepté directement ? Comment ça s'est passé ? Parce que je me dis que ça a dû ne pas être simple aussi, surtout si elles les ont fait produire, si... il y avait des notions aussi d'exclusivité parce que c'est des choses qui étaient propres à la marque. Et est-ce qu'elles ont accepté tout de suite ? Est-ce qu'on parle avec des vraiment grosses maisons ? Est-ce que peut-être tu es en partenariat avec un groupe qui fait que plusieurs maisons... voilà. Comment tu as créé ce lien pour avoir justement ces, entre guillemets, ce gaspillage de ces maisons-là ?
Alors déjà, pour commencer à travailler avec ces maisons-là, on parle de grandes maisons. Nous, au départ, on signe des comptes... Enfin, au départ... C'est des contrats qui s'établissent sur des mois, voire des années. Ouais. Donc, on signe à la fin des contrats de confidentialité. Donc, ces grandes marques de luxe, il y a beaucoup la culture du secret. Et donc, je connais bien ça puisque j'ai travaillé dans beaucoup de maisons de luxe. Mais du coup, ils nous font déjà donc, signer ces contrats-là. Donc, déjà, on ne peut pas dire avec qui on travaille. Mais surtout, effectivement, il faut montrer patte blanche. Il faut penser les process, enfin, il faut qu'ils pensent aussi de leur côté les process, il faut trouver la bonne personne en interne. Et la première collaboration avec une maison de luxe, on a sorti notre première vente avec une maison de luxe en mai, à la sortie du confinement en 2020. J'avais commencé à contacter des maisons de luxe en juillet 2018. Donc voilà, donc il faut bien, ça a été bien 2 années. Pour tenir ces 2 années-là, déjà j'ai commencé à travailler avec leurs fournisseurs, donc des tanneurs notamment. Donc ce qui m'a permis déjà de travailler sur des plus petites quantités pour le coup, avec des plus petits acteurs. Il n'y avait pas effectivement de marque établie sur des centaines de mètres carrés la couleur. Mais après, du coup, grâce à ces stocks des maisons de luxe, on a pu avoir accès à ça et donc aussi avoir beaucoup plus d'impact et pouvoir brasser encore plus de volume pour pouvoir éviter encore plus de gaspillage.
Oui. Et pourquoi ce choix du cuir alors ? Parce que c'est, je pense par exemple à Donna Source qui eux travaillent avec, enfin ils appartiennent à LVMH, donc ils travaillent avec toutes les maisons d'LVMH. Et bah eux c'est tissus, ils font aussi du cuir mais vraiment en quantité vraiment moindre. Ils font aussi du tissu d'intérieur. Pourquoi est-ce que le cuir ça a été quelque chose qui t'a particulièrement intéressé ? Est-ce que tu travaillais dans les services maroquinerie peut-être ou voilà et et on va parler après de cette matière en elle-même parce que y a, évidemment c'est une matière qui est aussi qui suppose beaucoup de problèmes, on va dire, qu'on va pouvoir traiter après. Mais en tout cas, pourquoi le cuir t'a particulièrement intéressé?
Alors, j'ai travaillé du coup, dans ces maisons de luxe, à chaque fois en développement de collections en maroquinerie. Donc évidemment, je travaillais beaucoup sur le cuir. C'est une matière qui m'a toujours plu dans sa longévité, mais ça, on en parlera peut-être pas. Voilà, pour moi, c'est la matière la plus durable qui soit, parce que c'est une matière hyper noble, très durable, enfin extrêmement durable dans le temps. On parle effectivement à la base de support animal. Donc, en plus, ce gaspillage-là m'a encore plus choquée quand je travaillais là-dedans, parce que voilà, je me disais, autant revaloriser jusqu'au bout ce support-là.
Bah oui, parce que pour les néophytes ou pas forcément, mais qui connaîtraient pas l'industrie du cuir, est-ce que tu pourrais faire un petit topo pour expliquer brièvement comment ça se passe ? Parce que c'est vrai que c'est il y a des rouages un peu particuliers, on va dire, de cette industrie-là. Comment est-ce qu'on va récupérer sur certaines peaux, etc. Et comment ça se passe au niveau tannerie ? On parlera aussi des tanneries avec lesquelles vous travaillez, parce que c'est aussi le côté sourcing, etc. est aussi intéressant. Mais en tout cas, faire un rapide point sur l'industrie du cuir en elle-même.
Effectivement, il y a déjà beaucoup de fausses idées reçues sur le cuir. Déjà, ce que je parlais de matière responsable, parce que déjà, elle est durable dans le temps, mais aussi, surtout, parce que c'est un recyclage de l'industrie alimentaire. C'est le premier... Enfin, voilà, les premiers hommes ont recyclé des peaux de bêtes comme... comme moyen de se vêtir et de se protéger. La peau, en tout cas, le cuir classique, je ne parle pas du cuir exotique ni de la fourrure, mais en tout cas, le cuir classique, un animal n'est pas élevé pour sa peau, mais pour sa viande. Et donc, la peau brute qui reste après l'abattage et après avoir vendu la viande, cette peau-là, elle est revendue, mais ça représente 5%, on va dire, du prix d'un animal au global. Et cette peau, elle est revendue à des tanneurs, à des mégissiers, pour qu'eux-mêmes puissent transformer cette peau en un cuir, donc en une peau imputrescible, qui permette de recycler, finalement, d'upcycler même cette peau.
Donc il n'y a jamais d'élevage ou d'abattage uniquement à des fins de production de cuir ?
Jamais. Sur du cuir classique comme ça, hein, de bovin, agneau, etc. Je ne parle pas du cuir des crocos, par exemple, où là, effectivement, à partir du moment où la peau est plus chère, a une plus grande valeur que la viande, eh bien oui, là, on peut dire que l'animal, il est plus élevé pour sa peau et du coup pour son cuir qu'on va tanner que pour sa viande.
Et alors, l'autre question, forcément, parce que disons que les notions de responsabilité, de durabilité, etc., elles ont un vrai poids aussi, parce que quand on pense à, par exemple, du simili-cuir, des choses comme ça, ce sont des matières qui sont faites avec l'industrie pétrolière. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est pas du tout écologique, finalement. Et qu'est-ce que tu penses de ces alternatives qu'on peut voir de cuir, de champignons, d'ananas, etc., qui sont pas forcément durables dans le temps, mais qui existent?
Alors, il y a beaucoup de recherche et développement. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait ces matières alternatives, hein, parce que notamment, rien que pour les véganes qui ne veulent pas avoir de support animal, c'est très bien qu'il y ait cette offre pour eux. Chacun met le curseur là où il veut. Mais effectivement, les premières matières alternatives au cuir, le sky, hein, par exemple, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on parlait plutôt de sky que de matières véganes. Mais effectivement, c'était surtout fait en grande majorité avec du plastique. Donc effectivement, c'était pas le plus écologique qui soit, hein. On a juste changé de wording et de wording pour le marketing. Donc, on a plus parlé de matière végane. Maintenant, il y a de plus en plus de matières, et ça va dans le bon sens, qui utilisent des liants moins polluants, et voire même des compositions où il n'y a plus de plastique dedans. Mais vient aussi la question de la durabilité de cette matière. Donc on peut aussi, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'il faut... Il faut comprendre l'utilisation de ces matières dans sa globalité, dans l'analyse du cycle de vie d'un produit. Et après, le cycle de vie d'un produit ne s'arrête pas à sa fabrication, mais à son utilisation. Donc si j'ai une matière alternative qui va me durer 2 mois d'utilisation versus un cuir plusieurs années, en fait, ça s'appelle de la fast consommation, fast fashion, fast consommation. Et il n'y a aucun intérêt à ce qu'on produise, parce que même une matière la plus éco-responsable possible, avec le moins d'impact possible, il y aura toujours un impact. On fabrique une matière. Ouais. Et c'est là où aussi le premier, nous, on défend beaucoup chez Adapta le côté réemploi, c'est-à-dire que il y a donc ce réemploi-là, il y a les recyclages des matières, mais le réemploi, il n'y a aucun impact en supplémentaire à avoir. C'est-à-dire qu'on utilise ça, on va juste le resélectionner et on va le remettre à disposition d'autres marques. Une matière recyclée, il va falloir qu'on la broie, il va falloir qu'on lui rajoute du liant, des produits plus ou moins chimiques, enfin, selon les
différents. Pour le textile, c'est pareil en plus.
Exactement. Donc, c'est super d'avoir du recyclage, mais le premier réflexe, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a là et qu'on puisse utiliser tel quel, sans rajouter d'impact.
C'est ça, en fait, prendre ce qui est déjà disponible.
Exactement.
Et mais alors, une autre question qui peut être un peu plus, on va dire, complexe, c'est toutes les questions forcément sur le traitement des cuirs en tannerie, que ce soit, parce que forcément ça utilise beaucoup d'eau, les matériaux utilisés aussi, qui peuvent parfois être très polluants, qui peuvent vraiment rejeter dans l'environnement des matières vraiment très toxiques, également tout ce qui va concerner les questions des teintures. Comment vous faites, vous, pour avoir un œil par rapport à, là, en l'occurrence, quand vous travaillez avec vos fournisseurs qui sont des tanneries voilà. Parce que là, pour le coup, vous êtes directement en face de ceux qui utilisent ces process-là. Est-ce que vous avez une exigence ou vous travaillez avec des tanneries qui ont certaines exigences, certains process uniquement, ou alors avec tout? Parce que j'imagine que là, ce n'est pas, que des matières, on va dire, qui sont gaspillées, c'est aussi des choses qu'ils produisent, mais qui ne vont pas forcément être vendues. Voilà. En tout cas, ils les produisent.
Bien sûr, non, mais on a un œil sur ça, évidemment. Déjà, on ne s'approvisionne que dans les tanneries et mégisseries européennes. Alors, ça ne veut pas dire que les mégisseries non européennes, etc., toutes ne sont pas bonnes. Mais au moins, on sait que ces tanneries-là, elles respectent les réglementations REACH. Elles respectent les lois européennes dans l'utilisation des produits chimiques, dans l'utilisation aussi, dans la manière dont les eaux sont retraitées. Et ne vont pas être redéversés tels quels avec plein de produits chimiques dans les rivières. On n'a pas en Europe des problématiques comme en Asie où en Inde, où on se retrouve avec des cours d'eau qui sont de toutes les couleurs parce qu'il y a toutes les teintures qui sont rejetées dans les eaux. Là, en Europe, on sait au moins que c'est retraité, que les eaux sont toutes retraitées et qu'il n'y a aucun rejet de produits chimiques dans les rivières et dans les cours d'eau. Donc ça, c'est hyper important pour nous et c'est pour ça que c'est la même manière dont on travaille d'ailleurs, hein, que ce soit avec les maisons de luxe ou alors avec leurs fournisseurs en direct, on leur demande une traçabilité. Donc on aura le nom de la tannerie, on sait que c'est une tannerie de tel pays, on sait le tel type de support, le tel type de finition, tel type de tannage. Donc on n'a pas la fiche technique exacte avec quel produit on a utilisé, mais on sait que ça a respecté toutes les normes européennes et a répondu à tous les cahiers des charges hyper exigeants des maisons de luxe aussi. Donc ça, c'est aussi hyper important d'un point de vue qualité. Mais voilà, on fait très attention grâce à cette traçabilité-là, à d'où provient le cuir.
Oui, parce que c'est vrai que sur cette question-là, forcément, ça reste une problématique parce que le produit n'est pas que le produit final ou en tout cas la matière première dont elle a été extraite aussi. Mais tu vois, par rapport à la notion de réemploi, on peut d'emblée se dire c'est une matière de réemploi qui n'a pas été utilisée, elle a des défauts. Alors, j'imagine que vous avez quand même des normes de qualité. Et est-ce que ça vous arrive de... qu'est-ce qui fait que, par exemple, une pièce... Parce que j'imagine que vous avez aussi des pièces, qui sont gaspillées parce que pour une maison de luxe, là, il y a un accro, ou parce que, comme on veut faire un certain produit dans une certaine taille, ça ne va pas correspondre parce que parfois, il y a la trace du dos ou des choses comme ça qui font que ça fait trop de gâches par rapport au produit et que donc, du coup, ce n'est pas utilisable. Mais vous pouvez quand même les réutiliser parce que si on veut faire, par exemple, un bracelet ou en tout cas utiliser beaucoup moins de matière, c'est moins grave, on va dire. Et donc, comment vous faites pour vous dire, cette peau-là, même si... parce que je pense, par exemple, à Maître Pierre qui, dans ses sacs, me disait, dans le podcast qu'on a fait ensemble, qu'il n'utilisait que des matières de réemploi et que parfois, s'il y avait un léger accro, etc., il l'utilisait quand même. Parce qu'il prenait le parti, justement, de se dire, on fait des sacs de cuir de réemploi, donc c'est quand même une excellente qualité, hein, c'est pas un énorme accro ou quelque chose comme ça. C'est simplement pour dire qu'il préfère utiliser une matière de très bonne qualité ou presque à l'œil nu, on voit pas forcément, sans vraiment l'exigence de qualité draconienne des maisons de luxe, mais avec un produit qui est très beau, très bien fini quand même. Et donc vous, comment vous faites pour déterminer, par exemple, qu'une pièce, là, n'est utilisable ou pas, et est-ce que vous vendez quand même avec des petits défauts qui sont quand même utilisables?
Alors nous, on fait un contrôle qualité, une sélection qualité à chaque fois, et on a une qualité entre guillemets adapta. Donc on fait pas du tout attention au choix des cuirs, parce que déjà ça dépend du cahier des charges de chaque maison, donc ça diffère à chaque fois, et du, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un cuir qui va être utilisé pour faire des bracelets de montre, et il va avoir un choix de manière assez facile, puisqu'on va pouvoir un peu couper des petits morceaux dans tous les sens. Donc en fait, nous, comme on vend aussi en ligne, on a notre showroom ici, et on travaille avec des grands comptes, etc., mais on a aussi une sélection qui est en ligne pour tous les clients, donc à partir d'une peau, ils peuvent choisir leur peau en ligne. Donc on se doit, nous, de se dire, en fait, chaque peau, elle est qualitative et dans chaque peau, chaque artisan, chaque marque peut couper de manière raisonnable et très qualitative ce pourquoi il a acheté la peau. Donc on a accès quand même à des lots de qualité qui ont déjà passé les contrôles qualité. Parfois, ils ne passent pas les contrôles qualité parce que s'ils n'ont pas le bon coloris ou la bonne finition, le bon, voilà. Donc là, ça, on ne parle pas forcément de défauts. Et ensuite, eh ben, y a effectivement certaines peaux qu'on va mettre de côté parce qu'il va y avoir trop de défauts sur le centre de la peau. Parfois aussi, parce qu'on parle de réemploi et que ce sont, par exemple, des matières qui reviennent de chez les fabricants qui ne stockent pas bien finalement les peaux. Donc elles sont enroulées ou elles sont mises un peu n'importe comment dans un carton et finalement on se retrouve avec ça et on va pas du tout les proposer à nos clients, on les sélectionne pas. Donc voilà, donc il y a un seul contrôle qualité, que ce soit pour un bracelet de montre ou pour un sac. Comme nous, on ne sait pas qui va acheter en fait en ligne notre cuir, on se doit d'avoir une seule qualité en fait égale pour tous nos clients et qui soit la plus haute possible.
Oui, parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui les mentalités ont évolué, mais en 2012 il y avait une étude dont là j'ai pas le nom en tête, mais je vous les mettrai dans le lien sur l'Instagram de Décousu, où dans la mentalité, enfin dans le conscient collectif, tout ce qui était lié au réemploi était forcément pas très reluisant, on va dire, en termes de qualité. Là on est vraiment sur des alternatives où on a des choses d'exception en fait en termes de qualité, et ça ne contrevient absolument pas à l'exigence qualité qu'on retrouve dans le luxe ou dans les matières, même pour la maroquinerie. Avec tout ça, je me dis finalement quel est le business model d'Adapta, parce que finalement vous proposez aussi à des prix abordables. Et donc comment ça se passe? Est-ce que les maisons vous donnent ce gaspillage-là? Est-ce qu'ils vous le vendent? Est-ce qu'ils vous le vendent cher ou pas? J'imagine que le contrat confidentiel ne permet pas de parler de chiffres, mais même par rapport aux fournisseurs, comment ça se passe en fait pour acquérir ces matières-là? Est-ce que vous les achetez?
Oui, on les achète, on est une entreprise, donc on fait du négoce, hein. On va racheter et on se fait une marge et on revend. Mais évidemment, pour pouvoir revendre entre 30 à 70% moins cher par rapport à leur prix d'origine, on va essayer de les racheter le moins cher possible. Mmh. Mais il faut qu'on se fasse aussi nous une marge de notre côté. Sûr. C'est vraiment un business model de négoce très classique.
Oui, et les maisons, elles sont plutôt conciliantes de ce point de vue-là, ou c'est un peu la bagarre ou...
C'est pas la bagarre, parce qu'en fait, c'est moi, je suis pas du tout commerciale, on va dire. Je suis pas une négociatrice. J'ai pas fait des études de négociation commerciale, des choses comme ça. Donc en fait, c'est une démarche win-win en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, voilà, pour le revendre avec la promesse qu'on a pour nos clients, en calculant la marge, on doit l'acheter à ça. Si notre fournisseur il a un autre moyen de le revaloriser en interne ou en externe, tant mieux pour lui et qu'il le fasse. Si après il ne trouve pas de moyens et s'il a toujours en fait ces stocks dormants-là, nous on est une solution à ce moment-là pour eux.
Parce que c'est ça aussi qui est assez génial pour en tout cas les clients, qu'ils soient justement étudiants ou maisons établies, c'est que déjà... La qualité est forcément au rendez-vous comme on l'a vu, mais également le prix est quand même vraiment très abordable. C'était une volonté dans la démarche de vraiment créer quelque chose.
Oui, c'est vraiment une volonté. En fait, notre but, c'est de travailler avec toutes les marques. Et pour avoir un impact, il faut qu'on puisse aussi travailler avec des marques plus établies, qui, elles, vont avoir un positionnement prix, un positionnement de gamme, moins haut qu'une maison de luxe. Et donc, leur budget cuir ne va pas être évidemment le même qu'une maison de luxe. Donc, ils se doivent de pouvoir accéder à ces cuirs-là. Donc, nous, on doit pouvoir aussi leur proposer des prix accessibles pour eux. Donc ça part de là, c'est vraiment, on doit, et le but c'est qu'on puisse quand même donner accès à ces cuirs à tous. Et c'est vrai, quand on a commencé à collaborer avec La Redoute, par exemple, sur leur collection de maroquinerie, pour nous c'était le Graal, entre guillemets, parce que c'était, on donnait accès à ces très belles matières à tous, grâce à ça. Donc c'était ça aussi, dans l'ADN d'Adapta, c'est de pouvoir donner un accès à tous, et aussi de servir du plus petit au plus gros.
Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les alternatives qu'on trouve aujourd'hui, on ne parle pas forcément de qualité moindre et on ne parle pas non plus de prix exorbitant. Donc il y a des choses qui sont vraiment faisables et qui sont vraiment intéressantes aussi. Après, c'est vrai que le bémol, on va dire, quand on est un gros bateau, c'est le côté volume, parce que forcément, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais c'est plutôt intéressant justement de se dire, on ne va pas non plus produire dans le vent. Et ça peut aussi bien fonctionner avec un système de précommande qu'on voit de plus en plus se développer dans certaines maisons. Il y a un autre aspect, évidemment, qui est un peu compliqué, on va dire, c'est on voit de plus en plus de voix se lever contre tout ce qui est justement utilisation de cuir animal, enfin de matière animale. Et est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes ou vous dites que, est-ce que tu penses que le cuir un jour a vocation à ne plus du tout être utilisé ? Ou pas, parce que quand on parle par exemple Robert Mercier, un artisan du cuir, finalement c'est vrai que c'est compliqué, même avec toutes les alternatives du monde, de trouver une matière qui va être d'aussi bonne qualité, aussi résistante, et évidemment aussi la question, au-delà de la durabilité, la question de qu'est-ce qui se passe une fois que la matière, la question du dégradable aussi. Cette matière cuir, finalement, est-elle... Est-ce que tu penses que par rapport à des questions éthiques, elle est peut-être vouée à s'essouffler ou pas du tout ?
C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que aucun animal n'est élevé pour sa peau. Donc, à partir du moment où on continuera de consommer de la viande, il y aura des peaux brutes qu'on essaiera au maximum. Le but, c'est de les valoriser elles aussi, et non pas de les gaspiller non plus. Et donc, le jour où il n'y aura plus de cuir, ça sera complètement relié. Ou consommer de la viande, ou aussi pour le lait, pour l'industrie laitière, etc. C'est le jour où on ne consommera plus ni de lait ni de viande, et à ce moment-là, il n'y aura plus de cuir. Mm-hmm. Voilà, tout simplement. Et il y aura d'autres matières, il y aura d'autres problématiques, et on se penchera sur d'autres problématiques de ce secteur-là. Mais déjà, essayons d'utiliser ce qui est produit actuellement, suite du coup à l'industrie de l'alimentation. Et après, on verra. Mais oui, en tout cas, la tendance de consommation, on va dire, dans nos pays à nous, baisse. Après, au niveau mondial, ça ne baisse pas. Hein. Mais donc, tant qu'il y aura cette consommation-là, il y aura du cuir. Et si, par contre, on ne mange plus du tout de viande, il n'y aura plus du tout de cuir.
Ça, c'est quelque chose qui est très important à soulever parce que... utiliser une matière de cuir de réemploi, c'est beaucoup plus écologique que d'utiliser une matière qui a été produite, même si c'est avec des alternatives, etc. Souvent, en plus, si c'est issu de matière avec de l'industrie de la pétrochimie. Mais même réutiliser, par exemple, des cuirs de champignons, ananas, des choses comme ça, ça utilise énormément d'eau pour les produire aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. On se dit, mais non, c'est au contraire... peu importe l'utilisation du cuir, c'est forcément mauvais, etc. En réalité, non. La chose la plus écologique possible, éthique, etc., c'est d'utiliser des choses qui existent déjà. Donc c'est pour ça que c'est très important de soulever ce point-là et de se dire qu'il ne faut pas vivre dans un monde où on se dit « mais non, parce que si vous faites ça, vous continuez à alimenter l'industrie de la viande, c'est l'inverse. C'est vous existez parce que l'industrie de la viande existe. » Et donc il n'y a pas cette notion de « l'industrie de la viande ne va pas, ne perdure pas parce que vous existez. » Voilà. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que toute création de matière, toute action qu'on fait de création de quelque chose. Voilà. Ça a un impact. Donc, le premier réflexe que je disais tout à l'heure, c'est de réutiliser l'existant, où là, il y a un impact zéro. Et après, sur des choses qu'on ne peut pas utiliser telles quelles, hein, parce qu'il en reste, évidemment, il y a vraiment des déchets qui restent. Ensuite, faire des matières recyclées, faire même de la revalorisation énergétique, effectivement, en bout de chaîne. Mmh. Mais en tout cas, le premier réflexe à avoir, c'est de pouvoir réemployer la matière telle qu'elle est, et sans avoir d'autres impacts supplémentaires sur ça, et donc d'autres impacts environnementaux. Mmh.
Est-ce que toi, tu as vraiment vu, parce que du coup, 2018, ça fait quand même un petit moment, est-ce que tu as vraiment vu une évolution par rapport à la clientèle, par rapport à la demande ces dernières années, et notamment après le Covid ?
Oui, évidemment, il y a beaucoup... Alors après le Covid, c'est un peu trop tôt. Oui, évidemment, en 10 ans, rien qu'avec les lois, justement, même si la loi AGEC n'a pas d'incidence directe sur notre business à nous et sur les matières et employés, etc., on a vu énormément d'évolutions, d'éveil des consciences, que ce soit des professionnels que du citoyen lambda. Et là, par exemple, je parlais de Première Vision au début du podcast, mais Première Vision, là, ça fait la deuxième fois qu'on participe. Et en fait, on a participé avec eux parce qu'ils ont lancé en fait un espace dédié au stock dormant. Et c'était la première fois, et donc c'est un énorme signal fort quand même pour l'industrie. Et là, on voit que tous les acteurs, que ce soit côté fournisseur ou côté client, tous se posent la question sur les stocks dormants, bah, forcément, et voient effectivement un débouché pour ça et comprennent que bah, ça marche aussi, ça peut marcher, c'est pas que pour des toutes petites séries, ça peut être aussi sur des vraies collections d'animation. C'est une vraie solution parce qu'on se rend compte qu'à un moment on parlait de l'impact du transport, c'est énorme, etc. Finalement, c'est 10% d'un impact d'une collection. Et finalement, le plus gros impact se trouve sur la production de la matière. Donc là, tout le monde finalement se dit « Ah bah oui, alors effectivement, les matières qui sont dans les stocks dormants, ce sont des vrais trésors et qu'il ne faut absolument pas gaspiller et qu'il faut absolument réemployer, réutiliser, revaloriser.
» Et tu vois, toi qui étais... on approche doucement de la fin, mais ça m'intéresse aussi d'avoir un point de vue plus humain, on va dire. Toi qui travaillais bah justement, enfin pas en même temps évidemment, mais chez Chanel, chez Céline, chez Hermès, comme tu me disais, qu'est-ce qui t'a fait vraiment te dire bon bah là je lance mon projet, est-ce que tu es partie d'une maison pour le lancer, et est-ce que je te dis là vraiment c'est plus possible, il faut que je puisse répondre à ça. Enfin, ça vient d'un engagement, ça vient d'une prise de conscience. Est-ce que c'était un ras-le-bol et un besoin de sens? D'où vient en fait cette construction d'Adapta finalement?
C'était vraiment un besoin de sens, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vrai que de lancer des collections les unes après les autres, au bout d'un moment, je me suis dit, ben ok, quel est l'objectif final? Et donc, j'ai essayé de me recentrer sur ce qui m'animait et ce qui me choquait finalement dans cette industrie. Et je me suis dit, ben ok, je ne peux pas forcément la changer de l'intérieur au sein des maisons. En tout cas, j'ai pas pu le faire, je vais essayer de faire un pas de côté et essayer d'aider ces acteurs-là dans la mode pour pouvoir trouver une solution, pour essayer de fluidifier un petit peu tout ça et éviter ce gaspillage-là. Mais ce n'était pas l'éveil de ma conscience écologique, c'est vraiment, ça s'est fait très naturellement et très doucement, et
c'est du bon sens, j'ai en pas fait,
voilà exactement, c'est parti d'un bon sens et j'avais pas une âme écologique incroyable avant de lancer Adapta, et en fait avec toutes ces dernières années, j'ai participé à l'éveil écologique, mais je me suis aussi moi éveillée écologiquement en même temps que mon projet finalement. Donc ça s'est fait avec le bon sens et recherche de sens, ouais.
C'est ça qui est fondamental, parce que ça prouve bien que c'est pas forcément une question de militantisme, mais c'est aussi simplement une question de logique, en fait.
Exactement.
Et voilà. Et bah écoute, j'aime bien terminer avec une dernière question qui est un peu une question traditionnelle chez Décousu. Tu réponds comme tu veux, soit de façon courte, soit de façon longue. C'est simplement, est-ce que tu penses que la mode peut être un art ou est un art, et notamment quand on pense au cuir, on pense forcément à la sculpture ou à ce genre de choses-là, où on utilise vraiment la matière au cœur de tout ça. Est-ce que tu penses que c'est le cas, la mode ou la maroquinerie, voilà.
Ah bah ça, c'est un sujet de philo. Évidemment, pour moi, la mode est un art. Enfin, tous les designers, tous les créatifs dans la mode, ils vont s'inspirer de tous les autres domaines artistiques. Ils vont se puiser dans la sculpture, dans la peinture, dans tous les autres arts. C'est pas du tout, en fait, quand on est vraiment passionné de mode, on n'est pas du tout cloisonné dans ce domaine-là de la mode, du vêtement, etc. C'est plein d'inspirations qui viennent de l'art avec un grand A, que ce soit dans les couleurs, dans les formes, enfin tout. Quand on va un petit peu chercher derrière un défilé, on voit toutes les références derrière, artistiques. Et là, tu parlais notamment, le plus évident, quand tu me posais la question, c'est, je pensais notamment à Robert Mercier, tu le citais. Pour moi, lui, c'est un... Enfin, même, voilà, les artisans, c'est des artistes. Enfin, ils font partie... Enfin, la mode fait partie est un domaine de l'art. Parce que quand on voit les créations de Robert Mercier pour... là, il a été surtout connu pour ses bustiers, pour Zendaya, pour Beyoncé, etc. C'est vraiment... c'est de l'art, quoi. Ouais. C'est magique, ce qu'il fait avec la matière cuir.
Ouais. Donc c'est pour ça aussi de voir à quel point c'est une matière aussi polymorphe et à quel point, quand on a envie de l'utiliser, on peut, de façon extrêmement... différente et variée aussi. Donc c'est ça aussi qui est une véritable richesse. Bon, alors pour terminer... Est-ce que tu pourrais dire, par exemple, s'il y a des étudiants qui t'écoutent ou des gens qui voudraient potentiellement travailler avec Adapta, comment on fait pour vous contacter? Où est-ce qu'on suit un peu votre actualité? Comment on vous trouve? Voilà.
Alors, il faut aller. Alors, on a évidemment des réseaux sociaux sur Insta. Donc, vous cherchez Adapta Paris sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Et en fait, on a, nous, un espace, un showroom où on se trouve actuellement dans le 20e à Paris. Donc, on peut prendre rendez-vous directement sur notre site. Notre site, c'est www.adapta-du-milieu-paris.com. Il y a un petit onglet prendre rendez-vous. Donc, on bloque un créneau pour vous, pour vous conseiller. Parce qu'il y a tout le service aussi derrière. Hein, on en a moins parlé, mais il y a le côté qualité, mais aussi le côté service et conseil. Et puis voilà, donc on vous prenait rendez-vous en ligne pour soit réserver un créneau par visio, soit venir en physique au showroom. Et ensuite, vous pouvez aussi tout à fait commander en ligne. Comme je disais, il y a un e-shop. Donc l'expérience aussi utilisateur, on essaye de faire au mieux. On essaye de donner donc toute la traçabilité sur chaque fiche article. On met aussi des vidéos, des photos, des vidéos pour montrer un petit peu la main, de la matière. On a pas mal de clients, des artisans voilà, dans toute la France aussi. Et maintenant, on commence aussi à avoir des clients hors France. Depuis longtemps aussi, déjà. Bon, en Belgique, c'est pas... voilà, en langue francophone. Et là, on a aussi quelques clients qui arrivent aussi à commander en ligne et qui s'y retrouvent aussi. Et donc, c'est ça qui nous plaît aussi, c'est de donner un accès... à tous, que ce soit en ligne ou en physique.
Et est-ce qu'il y aura peut-être d'autres matières que du cuir ou pour l'instant c'est cuir?
Ben, on a une toute petite offre quand même de textile, mais qui va être en complément avec le cuir, notamment de l'alcantara qui est une microfibre qui s'utilise aussi plutôt en doublure. On va aussi mettre en ligne, là on a pu avoir une opportunité sur des pièces métalliques, donc on va mettre aussi en ligne des pièces comme ça, mais on est surtout expert sur le cuir, donc on va essayer de garder quand même cette expertise-là. Et ça marche plutôt bien parce qu'on est quand même très visible sur cette partie-là de notre offre. Donc pour l'instant, en tout cas, on reste quand même sur du cuir.
Eh bien écoute, merci beaucoup pour tous ces détails, toutes ces spécificités et d'avoir pris le temps de parler tout ça en détail. Et puis j'enjoins tout le monde évidemment à aller regarder un peu ce que vous proposez, toute l'offre et potentiellement travailler avec la maison Adapta, quoi. Donc écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis à très bientôt peut-être.
Ouais, à très bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et évidemment, merci à Virginie pour sa générosité de parole, pour son temps. Et n'hésitez surtout pas à les rejoindre Adapta sur leurs différents réseaux, voir leurs offres et prendre le temps de questionner différentes industries. Et encore une fois, je vous enjoins à donner votre avis en commentaire sur l'Instagram Décousu Podcast et à dire ce que vous pensez de cet épisode, ce que vous pensez de l'industrie du cuir. Car je vous le rappelle, votre avis est plus que souhaité, respecté et compte énormément à mes yeux. N'hésitez d'ailleurs absolument pas à mettre une note et un commentaire sur votre application de podcast dédiée. Faites-le d'ailleurs tout de suite si vous en avez le temps. C'est la meilleure façon d'aider le podcast à se développer. Et ça me permet aussi de savoir quelles sont vos opinions, quels sont vos avis. C'est une information clé pour me permettre de penser davantage encore le secteur. N'hésitez d'ailleurs pas à parler de cet épisode ou même du podcast plus généralement autour de vous. Je pense que certaines personnes peuvent être intéressées. En tout cas, vous connaissez vos sortes d'ouvrages mieux que moi, et si c'est le cas, eh bien alors n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas d'avance, et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Décousu. À très vite !